Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, vous pourrez compter sur la verve de Willy Brahami, un ami, physicien, ancien prof, pilote, conférencier, musicien, bref, un touche-à-tout cosmique et de ses années d'expérience de vulgarisateur pour vous emmener au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles.
Bonjour à tous et salut Maxence. Alors voilà, aujourd'hui on est arrivé à l'épisode 16 pour l'instant. Et avant l'épisode 17, je voudrais peut-être faire une petite parenthèse qu'on appellerait l'épisode 16,5 si vous voulez bien. Voilà, le sujet c'est un peu plus philosophique, ou non pas vraiment philosophique, mais peut-être plus se poser des questions. Chercher des réponses c'est pas toujours le but, mais en fait déjà se poser la question entraîne une réflexion importante. Alors l'objet, c'est aujourd'hui l'entropie, E-N-T-R-O-P-I-E, et le principe anthropique avec un A, A-N. Dans nos sociétés humaines, pour le vivre ensemble, l'homme a érigé des lois. Le législateur, élu par le peuple, légifère, poussé par le bon sens et la morale. Il vote des lois et des constitutions. Mais en fait, ce ne sont pas vraiment des lois, mais plutôt des règles, car il est courant de voir que l'on peut les transgresser. On le voit tous les jours, de toute façon, que ce soit en voiture ou dans d'autres cas, on transgresse la loi. Et ça pose pas de problème si on ne se fait pas avoir, et si on se fait avoir, c'est pas bon. Par contre, la nature semble fonctionner avec des lois, mais plutôt des lois universelles. Par exemple, vous connaissez tous la loi de la gravitation universelle. Elle a été démontrée par Newton, affinée dans les détails par Einstein, et elle n'a jamais été mise en défaut. Et rien, ni personne ne peut les transgresser. Un objet lâché tombe. Donc voici, c'est pas transgressable, c'est une loi universelle. Un autre exemple, par exemple, vous connaissez tous le jeu de pile ou face, vous jetez une pièce 10 fois, tous les résultats sont possibles. 3 piles, 7 faces, 6 faces, 4 piles, même 10 piles, 0 face, etc., etc. Par contre, jetez-la 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, vous aurez pile poil la moitié pile, la moitié face. Comment une pièce parfaitement inconsciente, c'est qu'elle doit tomber du bon sens pour suivre la loi des grands nombres. Ça s'appelle la loi des grands nombres, c'est assez étonnant. En fait, un principe, c'est une loi physique apparente, qu'aucune expérience n'a validée, et qu'elle ne soit pas scientifiquement démontrée, et qui joue le rôle de postulat final. Donc c'est un principe. Il existe une branche de la physique qui s'appelle la thermodynamique. La thermodynamique, c'est, disons, thermo, chaleur, dynamique, mouvement. Donc en fait, c'est les transferts de chaleur. Alors, il existe deux principes qui sont finalement des lois. Le premier principe, c'est, disons, la conservation de l'énergie. La chaleur se transmet d'un corps chaud vers un corps moins chaud. C'est comme ça. Et en fait, vous connaissez tous cette monstrueuse expérience qui, une fois au lit avec son compagnon ou sa compagne, il ou elle vous pose le pied, son pied glacé sur le vôtre qui est très chaud, et là, vous sentez la douleur. Qu'est-ce qui se passe exactement? L'autre personne, elle est contente parce que d'un seul coup, voilà, c'est pas mal, c'est bien, c'est agréable. Et pour vous, non, ça ne l'est pas du tout. Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, ce qui se passe, c'est que la personne qui a le pied froid est en train de vous pomper la chaleur. Donc la chaleur rentre de votre corps vers le sien. Et voilà, tout va bien. Par contre, vous, vous sentez le froid, votre sensation de froid, c'est finalement, c'est tout simplement la chaleur qui s'en va. C'est ça la sensation de froid. Et finalement, ça va jusqu'où? Bah, ça va jusqu'à un moment donné, vous ne sentez plus le pied de l'autre parce que vous êtes à une égalité parfaite, vous êtes en équilibre. Voilà un tout petit peu le sens du premier principe de la thermodynamique. Il existe un second principe, qu'on appelle le second principe de la thermodynamique, qui postule l'irréversibilité des phénomènes ayant trait à la nature. Tout tend vers le plus grand désordre. Tout objet matériel se dégrade avec le temps. Tout vieillit, hélas. et ces phénomènes sont irréversibles. On n'a jamais vu un objet casser se reconstituer spontanément. On n'a jamais vu un être âgé rajeunir, etc. Cette notion de dégradation et d'irréversibilité s'appelle l'entropie. E-N-T-R-O-P-I-E. On dit que l'entropie croît ou qu'elle est positive. Ça sous-entend que tout tend vers un désordre absolu. Désordre pas dans un sens négatif, mais disons dans une harmonie plutôt. Finalement, tout se mélange à la perfection. Alors, pour essayer de ressentir un peu cette histoire et essayer d'imaginer une expérience de la pensée du sel et du poivre, prenez un bocal fermé. Remplissez-le à moitié de poivre et au-dessus à moitié de sel. Vous laissez un petit espace, vous fermez le bocal. Agitez le bocal longtemps, 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 longtemps. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez obtenir un magnifique gris assez harmonieux. Et plus vous agitez, plus un gris parfaitement uniforme s'installera. Bon, connu. Question, combien de temps faudra-t-il agiter le bocal pour que le sel et le poivre se séparent comme au début? Pourquoi pas, après tout. Les grains ne savent absolument pas de quelle couleur ils sont. Ils peuvent aller où ils veulent. Les lois de la nature leur permettent de faire ce qu'ils veulent. Par hasard, tout en choc, tout en tout ce que vous voulez, eh bien, jamais ne se passera moitié sel, moitié poivre à l'eau. Bon, comment les grains noirs savent ce qu'ils doivent faire pour rendre le mélange parfaitement uniforme? C'est un peu pareil que pour la pièce, finalement. Inconscient, mais non, il y a quand même une loi qui sous-tend tout ça. C'est ça l'entropie. C'est en même temps, quelque part, une définition du temps. Le fait d'agiter le bocal fait que, finalement, le système que vous êtes en train d'agiter est en train d'avancer dans le temps. Donc, plus on avance dans le temps, plus on tend vers la plus grande uniformité, on va dire, plutôt que désordre. Le temps passant, tout se désorganise. Tout tend vers le plus grand désordre ou la plus grande uniformité que rien ne pourra distinguer de rien. Bon, voilà un peu la notion, ces deux principes qui sont assez étonnants. Bon, ben les conséquences, c'est quand même, quand on les regarde à notre niveau, évidemment, on va vieillir, on va disparaître. Alors qu'on a été organisé il y a un certain nombre d'années, au moment de la conception, organisé, 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 et puis finalement se dégrader, se dégrader, se dégrader. On pourrait essayer d'imaginer, bon, c'est encore une expérience de pensée. Vous avez un microscope extra top fort et vous regardez un petit peu certaines zones du mélange de sel et de poivre. Peut-être que quelque part, dans des endroits complètement improbables, vous allez voir une petite organisation entre les grains noirs et les grains blancs. Vous essayez de monter une structure qui semble un peu plus complexe. Vous attendez, et bien elle va quand même disparaître. Donc les questions qu'on se pose, c'est qu'en est-il pour l'espèce humaine? Qu'en est-il pour une civilisation ou une société humaine? Pour notre planète, pour notre système solaire, notre galaxie et même tout notre univers? Si cette loi est universelle, eh bien, tout est concerné. Cette loi appliquée à l'univers postule un destin effrayant. Bien sûr. Après un printemps qui dure depuis 500 millions d'années, favorable pour la Terre où la vie a éclos dans un feu d'artifice, de beauté et de complexité. Hélas, le futur s'annonce compliqué dans les prochains millions d'années, dans le futur, puisque tend vers le plus grand désordre. Donc, c'est une catastrophe assurée. Dans 5 milliards d'années, le Soleil aura épuisé tout son combustible. Il enflera tellement qu'il englobera les premières planètes telluriques. Bien sûr, la chaleur sera tellement intense sur Terre que toute la vie aura disparu et que les océans se seront déjà évaporés. Mais peut-être que l'homme trouvera une source d'énergie qui lui permettra de se sauver de cet enfer. Peut-être une autre espèce aura évolué ailleurs pour continuer l'aventure et la complexification. Mais quoi qu'il arrive, dans un futur encore plus lointain, l'univers, à cause de son expansion qui s'accélère, sera de plus en plus froid. Non, de plus en plus froid, c'est-à-dire que la température, la chaleur se sera dilapidée, se sera harmonisée tellement qu'elle sera très faible. Et étant donné qu'une quantité d'énergie faible, ça empêchera tous les composants, tous les constituants de l'univers à ce moment-là de continuer à agir pour inventer et créer la complexité. Quelque part, la création du complexe s'amoindrit. Au cœur des galaxies, le trou noir géant aura englouti une grande quantité d'étoiles. Et à la fin, les distances entre les choses seront tellement grandes que plus aucune information ne pourra se transmettre. On a appelé ça le Big Chill, le grand froid. L'entropie sera maximum. Ce sera le plus grand désordre. Et finalement, le cosmos redeviendra ce qu'il était au début, c'est-à-dire chaos. Aucune organisation de rien, puisque plus rien ne pourra vraiment exister dans le sens que l'on donne au mot existence. La nature, elle, finalement, c'est pas si mal quand même, elle a donné une solution provisoire à toutes les espèces dont l'homme transmet. Génération après génération, les espèces s'améliorent, s'organisent pour survivre et pour s'améliorer, même si quelquefois dans l'histoire humaine, on peut en douter. Faut avoir confiance malgré tout. Même si quelquefois l'espèce humaine a dérapé, elle a réussi à surmonter ses faiblesses, donc soyons optimistes et de toute façon, vaut mieux. Quand l'homme a découvert le feu, finalement, 5 minutes après, il a inventé les pompiers. Donc ça donne beaucoup, beaucoup d'espoir. L'entropie, au moment où ça s'organise, ce chiffre qui est toujours positif, tant que c'est positif, le désordre augmente. Si jamais l'entropie était négative, le désordre diminuerait et la complexité pourrait apparaître. Quand l'entropie devient négative, on appelle ça aussi négantropie, dans le désordre apparaît de l'ordre. Mais hélas, encore une fois, au bout du bout, ce n'est que provisoire. C'est sans compter aussi sur certaines hypothèses actuelles. Certaines théories sont alléchantes et puis elles permettent un peu de se débarrasser de certaines choses un peu compliquées à comprendre. Par exemple, on a pensé une hypothèse fort crédible et même peut-être fort probable au vu des conséquences de la théorie qui est en train d'être testée. On appelle ça la relativité quantique à boucle. Il en existe d'autres qui permettent d'avancer, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire dans laquelle on vit finalement et puis quel est son destin. Quelquefois, on pense que dans ces théories, dans la relativité quantique à boucle, une des conséquences de cette théorie, si elle s'avère exacte, c'est que finalement l'univers serait cyclique. On est plutôt sauvés là. Bon, en fait, il y a 14 milliards d'années, ces fameuses lois universelles régissant l'évolution de l'univers étaient installées. Comment, pourquoi ? C'est pas le problème. Il n'existait alors que très peu de sortes de particules, il y a 14 milliards d'années. Les lois étaient telles qu'elles permirent l'apparition de structures de plus en plus complexes. Galaxies, étoiles, planètes, vie, évolution des espèces, jusqu'à l'apparition d'une conscience élaborée chez le sapiens sapiens, pour qu'il puisse être témoin de cette fabuleuse histoire. On appelle ça le principe anthropique de anthropos, qui veut dire homme en grec. Ce principe, il a été introduit dans les années 70. En fait, il existe sous deux formes, deux versions. On appelle le principe anthropique faible, qui il dit que le fait d'observer l'univers est compatible avec les conditions nécessaires à notre présence en tant qu'observateur. Sinon, nous ne serions pas là en tant qu'observateur. Voici la première hypothèse. Le principe anthropique fort, lui, postule que les paramètres fondamentaux dont l'univers dépend sont réglés avec une immense précision pour que nous apparaissions. Donc le principe anthropique, dans ces deux cas, ça sous-entend que l'idée de fond, finalement, à cette histoire du début de l'univers jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à peut-être plus tard, ça sous-entend que d'arriver au complexe qu'est nous, c'est peut-être un des buts. Mais bon, ça c'est plutôt philosophique, c'est plutôt métaphysique, c'est plutôt chacun répond à la question comme il a envie. Mais bon, alors, je vous disais, ces paramètres fondamentaux dont l'univers dépend sont régis par des constantes, des chiffres. On appelle ça des constantes universelles. Ces constantes universelles, elles découlent des lois, justement. Chaque constante représenterait une loi. Alors, bon, c'est un peu dit vite fait, mais voici les quatre constantes les plus couramment utilisées pour essayer de comprendre la cosmologie, c'est-à-dire l'histoire du cosmos. La première constante s'appelle H, c'est la constante de Planck. Elle sous-tend des lois qui régissent le monde de l'infiniment petit, grâce à cette constante H. La constante G, on appelle ça la constante de gravitation. Elle régit le monde de l'infiniment grand, c'est-à-dire des très grosses masses, des planètes, des étoiles, des galaxies, tout ce que vous voulez. Il existe une troisième constante qu'on appelle la vitesse de la lumière, C. Elle est très connue, elle est partout. Et ce qui découle de cette constante, les lois qui vont avec cette constante, permettent de comprendre et de... En fait, ces lois régissent l'espace et le temps. Une dernière constante importante, dans mon propos, c'est la constante de Boltzmann, K. cas. Elle régit les échanges d'énergie entre les objets, les échanges de chaleur, d'énergie. Et ces cas constants, une fois qu'on les a mesurés avec des unités arbitraires, enfin disons avec certaines unités, elles ont des valeurs d'une extrême précision. C'est un chiffre avec plein de chiffres après la virgule. Grâce à nos ordinateurs puissants maintenant, on peut modéliser l'univers avec ses quatre constantes universelles et les lois physiques qui vont avec. On balance tout ça dans l'ordinateur, on appuie sur le bouton, et le résultat qu'on obtient, c'est que ce résultat est étonnamment compatible avec l'univers observé, où y apparaissent des atomes, des molécules, des poussières, puis des objets plus gros, les étoiles, les planètes, tout avec les lois, tout tourne, tout va bien, les lois qu'on a découvertes et ces codes constants permettent vraiment de comprendre ce que l'on observe. Par contre, vous recommencez l'expérience avec votre ordinateur. Si vous changez le moindre chiffre dans n'importe laquelle de ces constantes, le septième chiffre après la virgule, par exemple, pour vous donner une idée, la réponse de la modélisation, alors là, elle est sans appel. On obtient un univers stérile. Alors, de là à penser que la vie et la conscience sont finalement inéluctables dans notre univers, comment vous dire ? Je crois que c'est un pas que je ne me permettrai pas de faire. Tellement curieux. Voilà, dans le prochain épisode, on continuera peut-être à voir dans les détails un petit peu quelles sont ces théories, qu'est-ce qui découlerait de ces théories par rapport à la naissance, s'il y a eu naissance, ou alors au cycle des univers parallèles. Existe-t-il qu'un seul univers ? Existe-t-il des multivers ? Univers, multi. Voilà, on en parlera, mais bon, pour l'instant, tout ce qui est observation est absolument inutile par rapport à essayer de déterminer quelle pourrait être une théorie qui concorderait avec l'observation. Voilà, merci et donc à la prochaine.
Avant de terminer cette émission, nous voulions remercier plusieurs personnes. Tout d'abord Aurélie qui nous a contactés sur Instagram et qui nous dit « Merci pour votre podcast Poussière d'étoiles, je les ai découverts il y a peu de temps et j'ai déjà tout écouté. C'est très bien expliqué et raconté, facile à comprendre et comparaisons permettent vraiment de se rendre compte. Merci pour votre travail et bonne continuation. » Merci Aurélie et puis on a un deuxième message de Mona qui nous dit « Je vous ai découvert il y a quelques nuits, je vous écoute pour dormir, j'adore, mais je vais également les écouter éveillés parce que ça m'intéresse vraiment aussi. » Merci à vous deux en tout cas pour vos commentaires, ça nous a fait à moi et à Willy comme d'habitude très très plaisir. Continuez à partager cette émission si elle vous plaît et puis effectivement écoutez-la peut-être pour vous endormir, pourquoi pas. L'émission a été conçue également comme ça, non pas comme un simple documentaire scientifique mais plutôt comme une invitation au rêve. À bientôt pour un nouvel épisode de Poussière d'étoiles.